En introduction à cette journée, je vais me lancer dans un exercice parfois pas forcément évident, d'essayer de vous présenter de manière assez rapide les enjeux et les problématiques qui ressortent dans le suivi de ces projets autour du système d'information et de la production des données au niveau national, puisque je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Grégory Murat, membre du conseil d'administration de la DBU et animateur depuis plus d'un an maintenant de la commission signalement et système d'information qui, au sein de la DBU, suit plus particulièrement ces dossiers, dont le projet SGBM. Et au sein de la commission, les différents échanges qu'on nourrit autour du projet SGBM, mais également des questions d'adoption et de modification de nos règles de catalogage avec le groupe sur le RDA, ou la participation au troisième segment de la bibliothèque scientifique numérique sur le signalement, nous ont amené à réfléchir et à essayer de voir quels étaient les enjeux, au-delà d'une question de réinformatisation, qui peut paraître parfois juste un enjeu technique assez simple. Et en fait, on va se rendre compte que ces questions-là dépassent la simple opération technique et peuvent avoir des répercussions beaucoup plus profondes dans la vie de nos établissements. Premier élément, quand on va parler de réinformatisation à l'aune du projet SGBM, on touche à non seulement au SIGB, comme on a tendance à l'imaginer de manière assez traditionnelle, mais également à ce qui constitue le cœur d'un ensemble un peu plus vaste, notre système d'information. Système d'information entendu au sens de l'ensemble des applications et des données qu'on échange ou qui sont produites entre ces différentes applications. Et la particularité introduite par le projet SGBM, mais qui, à mon sens, touche tout projet de réinformatisation aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas simplement le penser à l'échelle de son système, dans son établissement. Mais quand je dis cœur du système, il s'agit bien du cœur du système du service documentaire au sein de son université, de son institut de recherche ou d'un laboratoire, mais également de la partie nationale de ce système d'information qui elle-même a des échanges au niveau international avec le cœur du système du SUDOC et de l'ABES. Donc ce système d'information, il dépasse le seul cadre des établissements. Et c'est à cette échelle-là qu'on réfléchit. Cette question de réinformatisation, il s'agit maintenant de dresser le paysage en 2014, le contexte, quels sont les éléments qui conditionnent qui contraignent, ou quelles sont les perspectives dans lesquelles cette question-là est posée, qui ne sont pas forcément les mêmes que les questions qu'on se posait lors de nos précédentes opérations de réinformatisation ou lors de la mise en place du SUDOC, si on remonte aux années 90. Premier élément important à avoir en tête avec ces questions de réinformatisation, c'est que le réseau aujourd'hui, c'est un réseau très étendu, c'est-à-dire que le SUDOC s'est construit en intégrant un nombre croissant d'établissements de toute nature, si on pense aussi au réseau SUDOC PS. Donc nous sommes partie prenante d'un ensemble avec un nombre d'institutions de plus en plus conséquentes. Et du coup, la gestion du changement pour un réseau de cette taille implique des précautions ou une organisation du travail différente que celle qu'on avait pratiquée il y a 15 ans ou 15 ans auparavant. Deuxième élément, c'est que la notion d'établissement elle-même a changé. Dans l'intervalle de la constitution de ce réseau, chaque établissement a procédé par la mise en place, si on pense aux universités, de services communs de documentation et au renforcement de cette notion, à l'intégration d'un certain nombre de structures documentaires, voire à l'intégration systématique, au regroupement dans certains cas. Cette structuration par les SCD a été renforcée aussi par le fait que certains sites avaient une coopération au niveau documentaire entre établissements très poussée, notamment autour de l'informatique documentaire. Les exemples qu'on cite le plus souvent sont ceux du site de Toulouse ou de Bordeaux, mais on peut penser aussi au site de Montpellier et j'en oublie. Donc l'établissement est multipolaire, à la fois en interne, mais aussi dans ses relations avec les établissements proches de lui. Et il y a aussi des relations locales qui peuvent se nouer entre universités et monde de la recherche. Les structures documentaires de la recherche et les structures documentaires des établissements se rapprochent. J'en veux pour preuve l'ouverture qu'on a souhaitée au sein de la DBU et les rapprochements entre les relations de travail qui existent entre le conseil d'administration de la DBU et le réseau EPRIST. Donc la gestion du changement aussi en local introduit des différences. Autre élément qui, à mon avis, est plus complexe par rapport à la situation qu'on pouvait avoir auparavant, c'est la diversité des cultures techniques. Culture au sens de pratique, mais également de politique d'établissement. Et cette notion est souvent renforcée avec l'autonomie des établissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un modèle unique de système d'information dans un établissement qui serait confié à Microsoft avec des applications compatibles et on suivrait le rythme d'un seul fournisseur de système d'exploitation. Aujourd'hui, des établissements font le choix, pour toute ou partie de leur système, de passer sous d'autres environnements. Le fait que nous soyons à la Bulac est un très bon exemple, avec le passage pour cette bibliothèque sur un système Linux. Mais il y a également un rapport à la réalisation informatique qui va changer. Des établissements vont, parce que l'offre commerciale leur paraît satisfaisante, se consacrer pleinement à des relations avec des prestataires extérieurs, alors que d'autres, du fait de besoins spécifiques, de la présence de certaines compétences en interne, vont se tourner vers le logiciel libre. Il y a aussi, dans le cadre de l'autonomie des établissements, le fait que le SCD ou l'organisme documentaire va devoir travailler de plus en plus étroitement avec la direction informatique de son établissement, direction informatique qui, elle, mène la politique de système d'information d'un établissement et du coup peut inciter ou contraindre le service documentaire à faire certains choix. Troisième élément, on a tendance avec l'autonomie des établissements à opposer aujourd'hui le réseau et l'autonomie. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est une question qui est ouverte, qui est récurrente, mais qui à mon avis n'a pas lieu d'être. Plusieurs éléments sur la manière dont on réussit à travailler dans le réseau m'amène à penser que ces notions ne sont pas incompatibles. On peut noter aussi, on le voit dans les échanges qu'on a en groupe de travail entre établissements et les collègues et les équipes de la BES, relever une certaine inquiétude de part et d'autre sur est-ce qu'on a encore un avenir commun, quelles sont les attentes des établissements par rapport à nous. On s'interroge sur qu'est-ce que la BES veut ou peut nous apporter dans ce contexte à la fois d'autonomie d'établissement et de monde de la circulation de l'information, mais quand on y regarde de près, on se rend compte que la BES, du fait de l'autonomie et de la reconfiguration de notre administration centrale, est de plus en plus un point de repère structurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on pense réseau de l'enseignement supérieur et de la recherche au niveau documentaire, à mon sens, la BES est une évidence pour la plupart, la grande majorité des collègues de nos établissements. Ce qu'on a parfois, on prend pas le temps de mesurer, c'est que depuis l'antériorité prise par le réseau, son histoire, le SUDOC et tous les développements qui l'entourent, sans parfois s'en rendre compte, d'importantes économies d'échelle ont pu être faites au niveau des établissements. On s'en rend compte souvent quand on s'en rend compte au niveau local quand, par exemple, la coopération au niveau documentaire est parfois en danger, quand on se met en situation de se dire si j'étais tout seul, comment je pourrais travailler? Et c'est là que les angoisses commencent à monter et on se rend compte que depuis des années, on faisait des économies qui nous ont permis, par exemple, d'investir de nouveaux chantiers autour du numérique ou de la formation des usagers qu'on n'aurait peut-être pas pu mener sans ces économies d'échelle qu'il faut valoriser, sur lesquelles capitaliser. D'autres éléments encore qui, à mon avis, rendent la notion de réseau et la collaboration entre établissements et la BES évidente, le fait que le SUDOC, du point de vue des collections physiques, reste l'outil de gestion, de reflet et de recherche de notre patrimoine documentaire et un élément de politique de notre conservation partagée à l'échelle nationale incontournable. Dans le même temps, on se rend compte de l'importance de la BES aussi par le souci que nous avons de leur demander des choses qui nous paraissent importantes et pour lesquelles nous n'avons pas d'autre option que de penser que la réponse peut venir d'eux, comme les questions d'intégration de données de la documentation électronique, qui est une demande que les établissements, dans les difficultés de gestion qu'ils ont à refaire X fois la même chose au sein des différents établissements, portent régulièrement auprès de la BES, parce qu'on estime que la structure capable de nous aider, c'est cette structure-là. On ne se retourne pas vers d'autres institutions et on a du mal à imaginer qu'on pourrait trouver par nous-mêmes des solutions. Dernier élément, le fait de disposer d'un réseau national déjà bien constitué, c'est un moyen de discuter aussi avec d'autres types d'institutions et d'autres cultures du signalement. Je pense comme je l'ai déjà dit, à des contacts plus importants avec les structures du monde de la recherche, mais aussi on peut penser à des relations avec une institution comme la Bibliothèque nationale de France, et à la capacité, par le fait que cette agence dispose de moyens et de réalisations qui témoignent de ce qu'on appelle la recherche et le développement, qui vont nous permettre d'innover. Alors qu'à l'échelle d'un établissement, la R&D, comme on dit dans le secteur de l'entreprise, est une activité sur laquelle il est difficile de mettre des moyens. La question du contexte, c'est aussi la construction progressive ou la refondation, à travers cette question de l'outil, d'un paysage bibliographique national. C'est-à-dire, on n'est pas tout seul, et la réflexion à travers les outils doit nous poser la question des données qu'on produit collectivement, qu'on pourrait produire mieux, et de l'union des forces entre la BNF, les différentes structures qui se retrouvent au sein de la Bibliothèque scientifique numérique, l'INIST, Couperin, j'aurais pu citer le réseau EPRIST également. Donc, une plateforme, un forum de discussion qui fait notre force d'avancer en réseau au lieu d'avancer isolément. On pense par exemple à la question cruciale de l'amélioration de la qualité des données sur les ressources électroniques francophones, parce qu'on sait que les éditeurs pêchent beaucoup sur ces aspects-là, soit pour des raisons de priorité, soit parfois pour certains petits éditeurs pour des raisons de compétences. Et là, les institutions documentaires avancent en deux fronts, peuvent faire bouger les lignes sur ce chantier-là. Et je pense que le troisième segment de BSN consacré au signalement devrait s'emparer, plus qu'il ne le fait encore aujourd'hui, de ces questions, en lien avec un autre groupe. C'est parfois difficile et compliqué à suivre parce qu'on multiplie les groupes, mais celui sur l'adoption du RDA en France et qui pose des questions stratégiques au niveau de l'évolution de nos normes. Dernier élément de contexte important pour situer le problème en 2014. J'en ai déjà un petit peu parlé avec BSN à l'instant et le RDA. C'est qu'on se retrouve dans une situation où notre contexte de normes, de règles qu'on suit, est appelé à évoluer. On sait qu'il n'est plus tout à fait adapté à notre environnement, mais qu'on a du mal à fixer des directions. Et que dans le même temps, l'environnement web de nouveaux formats est une réalité courante dans laquelle baignent nos usagers, dans laquelle s'inscrivent nos services. Et donc j'avais envie presque de poser la question de si jamais le chemin vers une amélioration, une optimisation de nos règles, de nos normes, de nos standards devait mettre trop de temps à évoluer, est-ce qu'il ne valait pas mieux capitaliser sur les règles qui ont le mérite d'exister, qui sont déjà pratiquées dans les établissements, dans les services documentaires aujourd'hui, et par contre franchir un cap décisif dans le changement de nos formats de production, en attendant de pouvoir faire évoluer nos normes, et donc d'inverser l'ordre dans lequel on pourrait traiter les différents problèmes. Par rapport à ces évolutions d'usage, certes, il y a les questions qu'on se pose, nous, établissements, ou que peut se poser la BES, se pose aussi la question de l'offre. Alors là, je vais faire un peu de provocation. On nous parle, dans le cadre de ces opérations de réinformatisation, d'outils de nouvelle génération. J'ai mis « nouvelle génération » entre guillemets. Donc, par rapport à ces enjeux cruciaux qui se posent devant nous, est-ce que cette nouvelle génération amène véritablement une innovation, Ou est-ce que si j'étais, si j'allais au bout de ma provocation, on n'est pas simplement en train de nous proposer, sous couvert d'une interface web, qui, il est vrai, par rapport à des interfaces des années 90, conçues souvent dans les années 80 en termes de conception, apporte un gain immédiat dans la facilité d'accès, mais en fait reprennent des outils qui existent déjà, c'est-à-dire que ces outils de nouvelle génération, sous couvert d'une interface full web, rassemblent dans un même produit un SIGB, un ERMS, un outil de gestion de ressources électroniques, et un outil de découverte pour rechercher dans l'ensemble. Mais que fondamentalement, on n'a pas changé la nature de nos outils, on les a simplement relookés. Donc, je pose un peu brutalement peut-être cette question de nouvelle génération, parce qu'il faut toujours, surtout face à une nouvelle offre, se poser ce genre de questions. Et c'est à l'usage, une fois qu'on aura suffisamment d'expérience de ce genre d'outils, qu'on va se rendre compte si finalement, malgré tout, il n'y a pas une évolution minimum qui déjà nous fait faire un gain d'économie et gagner du temps en termes d'échange de données. Mais peut-être que l'outil n'est pas la solution principale et que la réponse à nos problèmes se situe plus au niveau de la nature des données qu'on produit. Encore une fois, ça peut être un postulat. Maintenant, les motifs d'évolution de nos structures et de nos systèmes en ce moment, à l'aune un petit peu de ce qui a déclenché aussi le projet GBM, j'en ai identifié trois. C'est qu'au début de ces années 2010, on se trouve à la fin d'un cycle technologique pour de nombreux systèmes installés dans les établissements qui datent des années 90, et que par rapport à une nouvelle offre, beaucoup d'établissements se sont dit, mais une approche groupée, mutualisée pour les choisir, nous permettrait peut-être d'orienter l'innovation et les développements et de répondre à de nouveaux besoins qu'on a nous-mêmes parfois un petit peu de mal à définir, mais ce sera l'occasion de réfléchir collectivement pour essayer de les améliorer. Deuxième élément important, et là les collègues de l'ABES le décriront beaucoup mieux que moi, c'est aussi que le cœur du SUDOC était pris dans cette logique de nécessité de renouvellement à court ou moyen terme, parce que aussi conçu à une période donnée et pour répondre à une nouvelle donne du signalement par rapport à ces nouveaux usages liés notamment à la documentation numérique ou à la production de nouveaux formats qui étaient importants. Dernier motif, à mon avis le moins valable d'entre tous, souvent lié à des prises de position de nos équipes dirigeantes et de nos chers présidents d'université, c'est quand on dit mutualisation, un décideur il pense toujours économie d'échelle, et c'est d'autant plus criant en temps de crise. Faut faire attention à cet argument-là. Je pense que on est plus sur une amélioration de nos façons de travailler, une optimisation de nos services, essayer de toucher mieux et différemment nos usagers, mais l'économie budgétaire au sens strict est pas forcément une notion sur laquelle on pourra capitaliser, parce que là encore, qui dit nouveaux outils dit parfois nouveaux modèles économiques, et qu'on sait bien pour tout ce qui touche le numérique, que ce soit à titre personnel ou à titre institutionnel, les logiques d'abonnements qui ont tendance à se multiplier en période de difficultés budgétaires sont des choses qui pèsent sur nos budgets, surtout quand l'autonomie des établissements nous conduit à une renégociation annuelle de nos moyens et avec des risques d'une année sur l'autre de subir des baisses conséquentes. Donc si on n'a bientôt plus que des services et des ressources sous forme d'abonnement, si je vais au bout de la logique, en caricaturant volontairement encore une fois, mais c'est provoquer le débat, de devoir un jour choisir entre couper les ressources numériques ou couper l'outil qui sert à faire du pré-retour. Du coup, on aura soit nos périodiques électroniques, soit on pourra juste emprunter ce qu'il y a à l'intérieur des bibliothèques. Donc, je vais un peu loin. Il n'empêche que cette notion d'abonnement, le fait qu'on ne peut pas capitaliser sur l'investissement sur des outils, rejoint les difficultés qu'on a à gérer un certain nombre de ressources. Alors je vais essayer d'accélérer sur la fin. Les points clés que je vois dans les questions de réinformatisation aujourd'hui, c'est donc bien évidemment réussir à lier la production bibliographique classique et la gestion des métadonnées, que ce soit de documents numériques, numérisés, que l'on produit nous-mêmes ou que l'on acquiert. La question de la production native pour le web. la capacité de mettre à disposition les données qu'on produit pour éviter de les recréer à l'infini et faciliter plutôt le retraitement et l'enrichissement que la réplication de données chacun dans son coin. La question de l'ouverture des données et des systèmes, de ne pas être contraint par nos outils et d'être du coup assez libre de pouvoir suivre des évolutions de format dans un contexte où les normes et les standards évoluent rapidement. Un point essentiel qui touche les établissements, c'est en lien avec ces changements, et c'est là qu'on voit que ce n'est pas une question technique, la question de la révision de nos organisations, notamment autour de la fonction de signalement dans la politique de ressources humaines des services et institutions documentaires. Aujourd'hui, on a une structuration des équipes largement basée sur des filières de documents. Et on se rend compte déjà, avant même d'avoir des outils, pour certains d'entre nous, de disposer d'outils de nouvelle génération, qu'il existe, il doit exister des passerelles entre les équipes qui font du signalement de livres et des équipes qui font du signalement de ressources électroniques, parce que les outils sont communs, parce que des livres peuvent finir par être numérisés, et donc la donnée produite dans le SUDOC va finir en métadonnées Dublin Core dans sa bibliothèque numérique. Parce qu'aussi, l'appropriation du numérique par des équipes qui traitent uniquement de l'imprimé est essentielle, non seulement pour leur travail au quotidien, mais parce qu'on va retrouver cette influence-là dans leur pratique de médiation. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup trop encore de collègues qui n'osent pas, ne souhaitent pas aller s'écarter des collections physiques, mais du coup, on a aussi des difficultés à en faire des formateurs, des usagers. Et on se rend compte que dans la nature des réponses qu'ils peuvent apporter à des usagers sur place ou à distance, cette défiance du média peut handicaper la capacité de médiation. Donc il y a un enjeu au-delà de la seule organisation du travail. Un élément aussi important, c'est qu'avec ces nouveaux outils qui sont communicants entre le local, le régional, le national et l'international, c'est une structure à plusieurs niveaux, du cloud au local en passant par des niveaux de type consortium, qu'il faut inventer. Et on sait bien que c'est là-dessus que l'offre doit pouvoir se développer. Et je l'ai déjà dit, la question du modèle économique. Je vais passer très rapidement sur la question internationale. C'est des points qu'on évoquera peut-être dans d'autres présentations. Mais pour vous dire que la France n'est ni en avance ni en retard par rapport à d'autres pays. Nos homologues dans les autres pays se posent les mêmes questions que nous. Et les réponses apportées peuvent être extrêmement variées entre ceux qui choisissent de se raccorder au monde anglo-saxon en direct et d'abandonner progressivement la notion de réseau ou de production nationale, et ceux qui laissent de côté la question des outils pour se concentrer sur l'interopérabilité des données, avec toutes les difficultés que d'investir uniquement ce champ, cela peut comporter. Donc, en termes d'enjeux à retenir, par rapport à ces évolutions, si on veut continuer à fonctionner en réseau, il va falloir scénariser en fonction de la trajectoire des différents établissements et pouvoir avoir des réponses qui s'adaptent sur la durée pour que chacun, à notre rythme, on puisse intégrer des outils qui sont plus liés les uns aux autres, des productions de données qui se font à la fois au niveau local, national et international pour permettre à la baisse de continuer à assurer ses missions pour l'ensemble du réseau, à mon sens, parce que cette notion de rester en réseau est importante, parce qu'il faut continuer à étendre ce réseau. Il y a les établissements actuels, mais il y a aussi potentiellement d'autres établissements ou d'autres structures qui auraient intérêt à nous rejoindre ou avec lesquelles on pourrait échanger des données. Et je conclurai sur cette idée-là. C'est ce qui ressort du suivi depuis plus d'un an des différents groupes de travail à titre de coordinateur de la commission signalement et système d'information de la DBU. C'est que face à ces enjeux-là, c'est très compliqué d'avancer tout seul et d'avoir la bonne intuition et des convictions. Vous avez vu, j'ai parfois penché vers la caricature, mais j'ai posé un certain nombre de questions en forçant un petit peu le trait. Mais cette réflexion, il est impossible de la construire seule. Et c'est tout l'intérêt, notamment du projet SGBM, mais aussi de la commission SSI, c'est d'un travail collectif qui permet de capitaliser des interrogations, des arguments, des contre-arguments, et d'alimenter le débat pour essayer de construire aussi des outils de manière un petit peu moins, rigide, c'est pas le bon mot, mais disons en opposant moins la baisse d'un côté, les établissements de l'autre. Mais sur ce type d'outils, c'est des échanges qu'on a déjà eus, une nouvelle façon de travailler qui renforcerait la co-construction, le travail collaboratif, des co-développements, nous paraît coller aussi à la nature des besoins de nos productions, de nos échanges de données et de nature à donner, de périmètre à donner à nos outils. Et c'est tout l'intérêt d'un travail étroit et régulier depuis plusieurs mois entre des sites pilotes, des sites qui n'en sont pas, la commission de la DBU et les collègues et l'ensemble des équipes de l'ABES. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt et l'enjeu du travail qui se trouve devant nous face à toutes ces questions. Voilà. On va laisser un peu de temps à la fin, soit de l'intervention de Jérôme, soit de Jean, en fonction de la possibilité à faire une pause pour quelques questions. Et je cède la parole à Jérôme Calfon pour...